Voilà, donc je commence l'enregistrement de cette dernière séance, sixième et dernière séance aujourd'hui, donc du 25 février, de notre séminaire de recherche de master. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur votre validation du séminaire par un mini-mémoire ou une explication de texte, en redonnant quelques informations. Ensuite, on écoutera Yosra. Merci Yosra donc, d'accepter de prendre la parole pour nous présenter donc l'article que je vous ai indiqué donc hier dans le mail et qui traite des enjeux éthiques et politiques aujourd'hui de l'intelligence artificielle et plus particulièrement du deep learning. Et puis enfin dans un troisième temps, ce sera en fait la deuxième heure, donc après la pause, je prendrai donc le dernier temps pour faire un certain nombre de liens entre le deep learning et la microphénoménologie. Donc cette troisième mouture de la phénoménologie très contemporaine. Par ce biais-là, évidemment, pour vous présenter les éléments généraux, disons, de cette approche phénoménologique récente. Et ouvrir des pistes, évidemment, de travail de ce programme de recherche qui concerne en réalité essentiellement le deep learning et la phénoménologie dans sa version à la fois historique, dont on a déjà parlé, mais surtout dans sa version contemporaine, microphénoménologique et pratique. Donc ça ouvrira évidemment sur des séances de recherche plus avancées que les séances de master que nous avons eues ensemble, qui vont se dérouler ensuite en février, enfin à partir de mars surtout, et au deuxième semestre jusque autour du mois de mai, et qui se poursuivront en réalité ensuite à l'automne prochain, donc dans le cadre d'autres séances de master que je ferai au premier semestre, et aussi de tout le programme de recherche qui est en jeu donc à Galatasaray autour de cette chaire d'excellence. Voilà, donc quelques éléments concernant votre validation du séminaire. Donc vous êtes assez nombreux à m'avoir indiqué ce que vous aviez l'intention de faire, soit en termes d'explication de texte, soit en termes de mini-mémoire. Certains m'ont déjà envoyé leur explication de texte, pour tout vous dire. J'ai pas mal de propositions, de suggestions, donc bonjour Erinch. Bonjour. Donc j'ai un certain nombre d'éléments déjà pour certains et certaines d'entre vous, mais tout le monde n'a pas pour l'instant fourni le sujet sur lequel il voudrait travailler, soit l'auteur, soit le thème. Je vous avais fait un certain nombre de propositions, donc on va pas maintenant passer en revue ces différentes propositions, hein, c'est pas le lieu, je les ai notées, mais je souhaiterais vraiment, je vous invite à m'envoyer rapidement le choix de votre sujet. Ce que je vous demande, c'est pour le 12 mars, donc après les vacances, le 12 mars c'est un jeudi, donc on va fonctionner en deux étapes. La première étape pour le 12 mars, ce sera de m'envoyer deux pages où vous allez donc décliner de manière encore très succincte et synthétique un premier cadrage sur l'auteur ou sur le thème que vous avez choisi. Donc si c'est un auteur, une petite bio. Si c'est un thème, le contexte historique du thème. Donc ça peut tenir en un tiers de page. Ensuite, un deuxième temps où vous allez construire le lien, soit de l'auteur, soit du thème, avec le thème du séminaire, donc phénoménologie de l'apprentissage profond. Quel lien on peut faire? Pourquoi ce thème? Pourquoi cet auteur? Là aussi, un tiers de page. Et enfin, un troisième temps, une petite bibliographie indicative. Donc des références importantes que vous avez déjà en tête, que vous avez déjà regardées, que vous comptez mobiliser, là aussi en un tiers de page. Donc deux pages en tout pour le 12 mars avec ces trois temps, de façon à déjà cerner ce que vous êtes en train de mettre en place. S'il s'agit de l'explication de texte, c'est un peu différent. Vous pouvez soit me l'envoyer pour le 12 mars, entièrement faite, là on va pas avoir deux étapes, soit me l'envoyer pour la deuxième étape, c'est-à-dire mi-avril, où là j'attends donc votre mini-mémoire complet en 10 pages, et divisé donc à nouveau dans ces trois étapes que je viens d'indiquer, mais un peu plus étoffé, donc là en 3 pages, donc une page chaque étape, auteur, thème, construction du lien avec le séminaire, bibliographie indicative, une page pour chaque, donc développé. Et ensuite, donc deux étapes supplémentaires, un quatrième temps où vous allez cerner la problématique générale finalement que vous avez choisi de développer à travers soit un livre de l'auteur, soit le thème plus précis. Et là, donc ça doit tenir en 3 pages, donc c'est un peu plus long. Et puis, un dernier point, un cinquième point, donc en 4 pages, le choix d'un extrait. Alors que ce soit un thème ou un auteur, finalement, je vais vous demander de choisir quand même un texte, ce peut être un article aussi, concernant le thème ou de l'auteur en question, et de proposer donc une analyse d'un extrait de l'ouvrage ou de l'article en question. Voilà, donc c'est un petit peu précis en ce que je vous demande, c'est un peu plus précis qu'au premier semestre, mais bon, c'est une manière aussi de vous donner un cadrage de travail qui vous évite de vous perdre et de pas trop savoir quoi faire. Hein. Donc si vous avez des questions par rapport à cela, soit on en parle là rapidement, on peut prendre quelques minutes pour en parler, si vous voulez des précisions sur les différents points et sur les différentes dates. Soit vous pouvez m'envoyer un mail en ce sens. Je vous remettrai de toute façon par mail en même temps que la confirmation de l'audio sur le site du laboratoire de l'ERIAC. Je vous remettrai en fait un petit document, enfin en tout cas la mention des différentes étapes à suivre, aussi bien au niveau des dates qu'au niveau des différentes parties à mettre en place pour ce mini-mémoire. Hein. Voilà, donc éventuellement, s'il y a des questions, comme j'ai été un peu rapide et un peu synthétique, n'hésitez pas, c'est le moment d'évoquer donc les points sur lesquels éventuellement il y aurait que ce ne serait pas clair. Donc la première chose pour vous, c'est vraiment de vous déterminer sur un auteur ou sur un thème, ou sur l'explication de texte. Je crois que pour les étudiants qui sont en master enseignement, j'ai déjà noté en fait hein, que vous allez faire l'explication ou que vous l'avez déjà faite. Donc ça concerne surtout les autres étudiants. Voilà, si je pense que certains et certaines n'ont pas encore fait de choix. Alors si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de questions, elles peuvent arriver après, de toute façon c'est pas très grave. Donc je vous propose que sans trop attendre, de façon à ce qu'on ait vraiment du temps et qu'on soit pas trop à courir après le temps, toujours à la fin de la séance, comme c'est souvent le cas de mon côté. Je vous propose qu'on écoute à présent Yosra. Si ça vous convient, Yosra, vous pouvez mettre votre micro, si vous le souhaitez, enfin c'est de toute façon nécessaire même. Vous pouvez mettre votre micro. D'accord, très bien, entendu. Donc voilà, j'attends que vous vous connectiez pour mettre le micro. J'aperçois Pierre qui est arrivé entre-temps. Bonjour Pierre. Voilà Pierre, j'ai déjà donné des indications concernant le mini-mémoire. Donc je vais refaire je vous remettrai un mail en ce sens hein, pour la rédaction du travail et les dates, puisque là vous venez d'arriver. Voilà, donc bonjour Yosra.
Bonjour.
Voilà, donc du coup, je vais couper mon propre micro et puis je vous donne la parole. Et éventuellement, si vous avez, je ne sais pas si vous souhaitez indiquer des choses dans la colonne rubrique notes partagées.
Oui. Comment est-ce que je peux partager mon écran ?
Alors, partager l'écran, je crois que ça c'est pas possible. Enfin, en tout cas, je ne sais pas faire. Par contre, vous pouvez copier-coller un document que vous mettez dans les notes, vous savez, sur l'onglet là, après message, discussion publique, vous voyez. Donc vous pouvez faire un copier-coller de soit d'un plan, soit d'une référence ou de quelque chose.
Ah d'accord, parce que j'ai fait un PowerPoint.
Ah oui, alors là, moi, là, très sincèrement, je ne peux pas vous aider par rapport à ça, parce que je n'utilise pas, et je n'ai jamais vu ça dans les réunions que j'ai suivies. Pour les PowerPoint, on est passé par Zoom à ce moment-là, mais là, donc je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de solution à vous proposer. On aurait dû en parler avant. En fait, ça aurait été bien de se mettre d'accord avant. Je ne savais pas du tout que vous alliez...
Je vais voir.
Regardez si vous avez... Vous l'avez déjà fait ?
Non, mais il y avait un cours où on a partagé un écran.
Ah bah écoutez, si, regardez, peut-être que c'est possible, il y a un petit onglet, il y a micro audio, ensuite il y a marqué partager votre écran. Voilà, bah, je crois que voilà, ça doit être ça. Donc c'est possible, effectivement. Bah, voilà, bah, vous m'avez appris quelque chose, c'est très bien.
Mais je pense pas que c'est
Alors
juste
je vois quelque chose
la
de...
caméra.
Ouais, ça marche pas trop là, c'est brouillé en fait.
Est-ce que je peux vous l'envoyer ou c'est pas la peine?
Bah, vous pourrez me l'envoyer après coup, mais en réalité je pourrais pas en faire grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez me l'envoyer, envoyez-le-moi par mail tout de suite, si vous voulez. Et puis bon, vous pouvez commencer et moi je vais essayer de le récupérer et voir si je peux le partager sur mon écran, si ça marche de mon côté. On va essayer, on va voir si et si j'arrive pas à le partager, bah de toute façon voilà, vous pouvez peut-être quand même noter. Donc vous me l'envoyez par mail. Ensuite, peut-être dans les notes partagées, vous pouvez indiquer un certain nombre de choses. La référence de l'article, peut-être votre plan, je ne sais pas, enfin, que vous pouvez copier-coller déjà. Et puis comme ça nous permettra de suivre votre propos plus facilement. Et moi, je verrai si j'arrive à partager l'écran à partir de mon propre ordinateur, si ça marche mieux. D'accord?
C'est bon, je viens de le faire.
Vous l'avez envoyé? Ok, ça marche. Alors attendez,
Voilà.
donc n'hésitez pas à commencer pendant que moi je comment je vais faire pour récupérer?
Oui.
Voilà. Donc je peux vous écouter en même temps. Je vais aller chercher dans le
D'accord.
mail.
Donc, voilà, bonjour tout le monde. Je m'excuse pour cet inconvénient. Je voulais partager avec vous un peu des bullet points, comme ça pour vous aider à suivre, parce que c'est un article très bien écrit, il y a beaucoup d'informations, voilà, mais c'est pas grave. Donc voilà, je commence. Donc l'article que je vais vous présenter s'intitule Judging Machines, Philosophical Aspects of Deep Learning, écrit par Dr. Arnaud Chubak. Qui est un professeur en philosophie et qui a étudié les mathématiques, l'informatique et la philosophie en Allemagne. Même s'il a un diplôme en mathématiques, son doctorat se concentre sur la relation entre subjectivité et socialité en phénoménologie, ainsi que structuralisme et post-structuralisme. En effet, quand j'ai choisi cet article, j'étais un peu nerveuse, car le titre ne m'apprenait pas grand-chose sur le contenu. Mais en lisant l'article, j'étais vraiment fascinée par les choses que le chercheur expliquait, parce qu'en vérité, on apprend beaucoup de choses sur l'ordinateur, mais nous ne posons pas essentiellement les questions qu'il faut poser. Donc j'ai essayé, à travers cette présentation, de simplifier au maximum pour couvrir tous les points essentiels sans perdre de vue, bien sûr, l'importance des idées. J'espère que j'ai réussi à le faire. Donc, on va voir. Donc, en effet, le point central de ce papier, c'est le changement radical de la relation homme-machine apportée par les machines deep learning qui sont caractérisées par un manque total de transparence. Donc, Chubak note que malgré le développement et le succès de ces machines-là, il ne semble pas y avoir de discussion philosophique qui offre un cadre pour l'étude épistémologique de ce phénomène. Et l'article là est une contribution pour remédier à cette lacune en se référant aux théories de Kant pour expliquer et justifier qu'on va voir voilà, après, à la fin de cette présentation. Voilà. Donc, voilà. Afin d'expliquer les caractéristiques du deep learning et le défi qui s'ensuit, Chubak prend l'exemple de Deep Blue et AlphaGo, deux ordinateurs développés par deux différentes sociétés, un pour jouer le jeu d'échecs et l'autre pour jouer le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un jeu très populaire en Asie, surtout en Chine, Corée du Sud et au Japon. Donc voilà, pour mieux comprendre le problème que le chercheur pose, il fallait comprendre d'abord les deux ordinateurs. J'ai dû bien sûr m'informer en lisant d'autres articles et j'ai regardé un documentaire sur YouTube qui parle de AlphaGo, que je vous recommande vivement d'aller le voir. Je vous envoie le lien juste après la présentation. C'est un excellent documentaire, vraiment à voir. Voilà. Deep Blue est un ordinateur développé par la société IBM en 1997. Cet ordinateur bat le meilleur joueur d'échecs, Garry Kasparov, un coup dur pour le joueur. Et presque 20 ans plus tard, en 2016, AlphaGo, une intelligence artificielle du start-up DeepMind, acquis par Google, gagne contre le meilleur champion du monde, Lee Sedol, qui a 18 championnats du monde. C'était vraiment un très, très, très grand événisé partout dans le monde. Et la rencontre fut émouvante entre les deux parties prenantes. Le choix, bien sûr, de cette comparaison n'est pas arbitraire, car il nous permet de comprendre la différence fondamentale entre les deux systèmes. Donc, on a Deep Blue, est une machine inventée avec l'aide des spécialistes du jeu de l'échec. Ils s'en mis des données, des centaines de milliers de parties des plus grands joueurs de l'histoire, les mouvements possibles, de telle sorte, à chaque coup, son processeur lui permet de faire des millions d'opérations pour trouver la meilleure stratégie. Cette rencontre avec Garry Kasparov est décrite comme la machine contre l'homme. Les spécialistes de ce jeu peuvent expliquer pourquoi l'ordinateur a choisi telle technique et même prédire ce qui va se passer dans le prochain coup. Et en effet, ce sont les approches de la force brute qui rend ça possible. Et l'auteur, il a dit brute force approach. C'est ça, c'est en anglais, parce que l'article, c'est écrit en anglais. Donc, AlphaGo, d'une autre part, n'est pas un ordinateur plus puissant, mais un autre système plus complexe. Donc, la fonctionnalité d'AlphaGo n'est pas basée sur des algorithmes mathématiques. Il est aussi différent d'un système d'intelligence artificielle classique, car il serait impossible dans ce cas de formaliser les données, les connaissances en données. Les spécialistes de Go disent qu'il y aurait plus de combinaisons sur le plateau du jeu que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc AlphaGo ici est un réseau, c'est un réseau avec une architecture à un niveau multiple et des stimulations à poids variable. Poids, l'auteur, il a utilisé weight, donc j'ai traduit avec le mot français poids. Je ne sais pas si c'est vraiment la traduction exacte ou pas. Je continue. La machine ici joue contre elle-même et a la caractéristique d'ajustement des données par l'apprentissage. Nous parlons ici du deep learning et l'idée de deep learning network, DLN, ou le réseau de l'apprentissage profond. Ce mot-là, ça va revenir, et je vais utiliser l'abréviation. Je vais l'écrire, je pense, c'est le slide 5, ou attends, mais je vais écrire dans les notes. Deep Learning Network, DLN.
Juste, je vous interromps. En fait, peut-être vous ne voyez pas l'écran, mais en fait, j'ai pu le partager, le PowerPoint défile.
Oui, je vois.
Voilà, donc n'hésitez pas à m'indiquer. Moi, j'étais en retard sur vos slides. N'hésitez pas à m'indiquer quand vous changez de slide.
C'est le slide juste après.
C'est la 6 ou la 5
La 6.
D'accord, donc je vais passer. N'hésitez pas à me dire quand je dois passer si jamais j'ai pas suivi. D'accord.
C'est le
7. D'accord. 7 même. Parfait. Ok.
Voilà.
Très bien.
La machine apprend de ses erreurs et cumule cette connaissance et cette expérience. AlphaGo a développé ses propres stratégies qui ont étonné même les grands joueurs. Donc ces deux parties de jeu ont été qualifiées. Mais comment ? Le slide juste après. La première, Deep Blue, a été qualifiée comme Man as a performer and man versus man as tool maker. And AlphaGo a été qualifié comme man versus self-learning machine, c'est-à-dire l'homme comme un joueur contre l'homme qui a créé la machine, dans le premier cas, et l'autre, l'homme contre une machine pensante, une machine qui apprend par elle-même. Ceci nous amène à un problème crucial. Deep Blue est une machine complexe, mais son programmeur comprend son fonctionnement, car c'est une relation input-output. Dans le de AlphaGo, il n'y a pas de corrélation directe basée sur algorithme voilà explicite entre la donnée à l'entrée et le résultat. Le programmeur lui-même ne serait pas en mesure d'expliquer ou même de justifier le résultat. Le slide après. Voilà, comme je vous dis, la relation du deep blue, c'est une relation input-output, mais en contrepartie, il me semble acceptable d'être entouré de boîtes noires, black boxes, lorsque nous ne comprenons pas, nous, les non-spécialistes, le fonctionnement de telle ou telle machine, parce que, bien sûr, nous n'avons pas la formation ou la spécialisation requise, mais nous savons que le créateur de la machine, normalement, il comprend son fonctionnement. Les machines DLN, Deep Learning Network, par contre, sont des boîtes noires, black boxes, même pour les programmeurs. Schubach parle ici d'un manque total de transparence et fait la distinction entre ce qu'il appelle l'impossibilité de comprendre le cheminement de l'information jusqu'à l'aboutissement au résultat final qu'il oppose à l'impossibilité de principe de compréhension. Dès lors, le slide d'après, comment pouvons-nous être confiants que le résultat atteint est le bon? Surtout que ces machines sont de plus en plus impliquées dans des domaines variés qui touchent et qui ont un impact énorme sur nos vies. Donc le slide d'après, donc ce manque de transparence signifie que nous devons adopter d'autres perspectives pour adresser les défis pratiques et théoriques. La Statistical Learning Theory ou théorie statistique d'apprentissage, le slide d'après, utilise une approche mathématique qui n'est pas vraiment spécifique aux machines d'apprentissage profond, deep learning. Donc, une deuxième approche cherche à comprendre le processus informatique des DLN, Deep Learning Network, mais ne permet pas de reconstruire la fonctionnalité d'apprentissage. Une troisième approche essaye de remédier à ce manque de transparence en offrant plus d'informations, voilà, pour comprendre et interpréter les résultats fournis par les DLN. Donc, essayer de comprendre le résultat en remontant à la source, c'est-à-dire à la formation de départ, input, n'est pas possible que pour des réseaux simples. Cela devient impossible pour des réseaux complexes. L'explication et la justification qui allaient de pair dans le cas des systèmes basés sur des algorithmes ne sont plus valables dans le cas des machines deep learning, car l'explication du processus ne justifie pas le résultat obtenu, l'output qu'on a. Donc, on parle ici de explanations or justifications, explications ou justifications. Le slide d'après. Donc, le manque de transparence propre au DLN mène au problème de savoir comment renforcer la confiance entre le résultat fourni face à l'opacité du processus. Par ailleurs, le chercheur souligne que la science vise à une connaissance justifiée, justified knowledge. Je voulais écrire, voilà, à fur et à mesure les termes en anglais comme voilà le chercheur a écrit et j'ai traduit l'élément voilà en anglais et en français. C'est pour ça j'ai mis dans les slides les plus importants que j'ai utilisé dans cette présentation. Donc le slide juste après, la connaissance justifiée, justified knowledge. Ce qui n'est plus le cas pour les DLN, Deep Learning Networks, car on n'en sait pas exactement pourquoi ni comment le résultat est atteint. De plus, les données de départ n'étant pas neutres, les DLN vont continuer à reproduire nos théories, ce qui risquerait conduire à ce qu'il appelle foyer d'ignorance. Le slide juste après, il a utilisé ici un terme latin. Bien sûr, j'ai utilisé Google Traduction pour essayer de prononcer le mot solum ignorantiae. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation ou pas, mais j'ai essayé, voilà, avec Google Traduction. Donc, ce qui risquerait de conduire à ce qu'il appelle des foyers d'ignorance si on ne réfléchit pas sur ce qui se passe. Donc, le slide d'après. Faut-il donc trouver une autre forme de justification? L'auteur fait l'analogie avec un expert humain dont on ne connaît pas le processus de raisonnement, mais en qui on a confiance à cause de leur expérience. Il a donné l'exemple du médecin. Donc, on a confiance à leur expérience, à leur autorité ou même à leur histoire. Donc, l'expérience est utilisée pour justifier la fonctionnalité sans pour autant lever l'opacité. Ceci veut dire quand l'on fait confiance aux DLM, qui ne sont plus des learning machines, mais plutôt des judging machines. Tel un expert humain qui a accumulé du savoir et de l'expérience pour lui permettre de passer un jugement, le slide d'après. Un jugement, comme je vous ai dit, voilà, learning machines versus judging machines. Donc, judging machine, tel un expert humain qui a accumulé du savoir et de l'expérience pour lui permettre de passer un jugement, même une opinion, ce qui revient à accepter que l'apprentissage, l'expérience et l'histoire déterminent les décisions des DLN, Deep Learning Networks. Cette analogie est ensuite examinée dans le cadre de la théorie de jugement de Kant. Le slide, voilà, juste après. Donc, ces deux livres, Critique de la faculté de juger ou Critique du jugement et la Critique de la raison pure, ce sont les deux livres utilisés comme référence par Arnaud Schoenbach. Donc, aspect du jugement qui aide à mieux comprendre la fonctionnalité des DLL. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont familiarisés avec Kant et ses idées. Donc, je vais essayer juste de me limiter à ce qui, de me limiter à ce qui l'auteur voulait, voilà, et appliquer à ce sujet-là. Donc, les objets de la connaissance sont liés au processus de la connaissance qui prennent la forme de jugement dont la validité dépend à son tour des règles du jugement. Ces règles de jugement, à leur tour, ne sont pas appliquées d'une façon arbitraire, mais plutôt suivent un petit nombre de règles inhérentes à cette faculté de règles qui est notre compréhension. Ceci suppose que la théorie de la connaissance s'adresse exclusivement aux règles de compréhension les plus générales et couvre toute forme de connaissance. Cependant, Schoenbach note que plus tard, Kant, dans sa critique du jugement, se rend compte que d'autres formes de connaissance requièrent des règles plus spécifiques pour différents types d'objets. Ces règles d'application, plus limitées à des objets empiriques, viennent en effet de ces objets eux-mêmes. Donc, il faut donc d'abord découvrir ces objets et ensuite les valider par le processus afin de former, voilà, une connaissance empirique. Par conséquent, Kant introduit une nouvelle forme de jugement, règle-objet, pour lequel les règles ne sont plus préétablies et appliquées sans distinction, mais elles doivent être extraites des données, être durables. Donc, une troisième forme de jugement, qui est le jugement esthétique, tire ses normes de perception individuelle de certaines œuvres d'art sans pouvoir les exprimer en tant que règle générale. On utilise des normes apprises de certaines œuvres d'art et nous les transférons ailleurs. Donc, la première forme de jugement semble plus applicable aux machines basées sur les algorithmes qui définissent les règles avant l'exécution des opérations. Mais même si les deux dernières approches plus applicables aux machines deep learning. Schoenbach conclut que le jugement esthétique semble le plus adéquat pour la fonctionnalité des DLN qui est établie à travers l'apprentissage et l'expérience. En conclusion, l'analyse de Kant nous aide à comprendre la fonctionnalité des DLN, Deep Learning Network, par analogie au jugement d'un expert. Le slide, juste après, voilà. Donc, primo, le manque de transparence qui caractérise les DLN est aussi présente dans les décisions prises par des êtres humains. Secondo, l'analyse des jugements de Kant nous offre un cadre pour évaluer ce manque de transparence commun à ce genre de jugement. Tertio, l'apprentissage profond, deep learning, doit être considéré comme un paradigme exceptionnel qui ne peut pas être jugé en fonction de règles et de critères voilà, explicites. Le slide juste après. Et finalement, l'analyse de Kant suggère qu'il y a une forme différente de justification qui n'est pas basée sur des règles, mais que l'expérience et la familiarisation peuvent justifier un jugement. Toutefois, cette justification n'est pas universelle et ne peut pas être appliquée sans distinction. Les DLN, Deep Learning Networks, doivent être évalués cas par cas et surveillés pour éviter les points négatifs et les dangers. L'œil et l'apport critique de l'être humain est essentiel, surtout lorsque la machine est impliquée dans des décisions ayant une portée considérable dans la vie de cet être humain. Les données de départ doivent être contrôlées pour éviter les abus. Donc Arnaud Schupak a mentionné que la relation entre l'être humain et l'ordinateur a changé. C'est vrai. D'un côté, le succès du deep learning est fascinant car nous voyons toutes ces innovations dont nous-mêmes en profitons. Mais d'un autre côté, ce succès est terrifiant si cette technologie est mal utilisée. Le slide d'après. Et comme a dit voilà, Rabelais il y a si longtemps, mais c'est toujours valable, science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme, donc on doit faire attention et contrôler tout. Voilà, merci.
You are now unmuted. Merci beaucoup, Yosra. C'était un excellent exposé. Hein, je dois dire que c'est très, très, ça a été très bien fait, vous l'avez très bien mené. C'est vrai que l'utilisation d'un PowerPoint, ça aide aussi beaucoup à suivre. Hein. Je pense que tous vos camarades ont vraiment pu bénéficier du coup de la présentation et du suivi de la présentation de l'article. Je vous recommande vraiment la lecture de cet article. Du coup, j'en profite pour faire un peu de publicité.
Oui, moi aussi, madame, parce que merci voilà, pour le choix du texte, parce que c'est très bien écrit. Déjà, l'article est publié sur l'un des principaux éditeurs mondiaux dans les domaines de la recherche. Et c'est un article très, très, très bien écrit. J'ai trop aimé le sujet. Et même, je vais partager avec vous le lien pour AlphaGo, le documentaire, parce que ça m'a aidé beaucoup à comprendre plus le contenu.
Oui, tout à fait. Et du coup, c'est un article très récent, par ailleurs, donc vraiment, ça fait le point sur les éléments les plus récents. C'est vraiment excellent que vous ayez pu faire cette présentation à partir d'un article en anglais, puisque vous-même, vous êtes angliciste, hein, vous êtes dans le parcours anglais, linguistique et traduction du master LESS. Donc c'est d'autant plus, vous aviez du coup la compétence en anglais qui vous permettait de lire sans difficulté, ce qui n'est pas forcément le cas de tous vos camarades en philosophie, même si je doute pas de leur qualité en anglais, mais enfin c'est quand même plus simple pour vous aussi. Donc vous aviez cette possibilité, donc c'était évidemment un grand atout. Et je dois dire que je suis très très impressionnée par votre capacité à expliquer, à clarifier et également même à présenter les enjeux par rapport à la théorie de Kant. Hein, vraiment, c'était très bien fait, très clair. Vous avez très bien restitué l'auteur donc, de l'article a mis en place. Vraiment bravo. Enfin, je voudrais vraiment vous féliciter parce que là, vous avez fait un très beau travail et par ailleurs aussi très, très utile pour notre séminaire. Hein. C'est une contribution tout à fait centrale. Hein, donc vraiment bravo. Donc peut-être, moi j'ai quelques petits commentaires et remarques que je vais faire, mais si éventuellement il y a des réactions immédiates de vos camarades, on peut prendre un petit peu de temps, on est tout à fait dans les temps, vous avez en plus très bien géré le temps, hein, c'est parfait, je dois dire, j'ai absolument aucune, J'ai eu des commentaires, mais pas de réserve ni de critique, hein, du tout, par rapport à votre travail. Donc, si éventuellement il y a des remarques des uns ou des autres, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, ça peut se. On va prendre un petit quart d'heure, hein, de toute façon, on est tout à fait dans les temps, c'est très bien. Voilà, n'hésitez pas à réagir, soit sur le chat, soit éventuellement même en prenant la parole avec le micro. Je vais peut-être en profiter pour retirer le. Alors, je peux laisser la présentation si jamais il y a des questions. Je l'ai retiré de mon côté. Où est-ce que je l'ai mise? Je ne sais plus où je l'ai mise. Enfin bon, en tout cas, je l'ai. Donc peut-être en attendant que des remarques viennent ou des questions viennent. Donc c'est vrai que l'intérêt de l'article, c'est vraiment de, comment dire, de montrer, de poser la question. Vous avez vu apparaître à plusieurs reprises, je fais un petit commentaire, hein, puisque c'est un point qu'on n'avait pas tellement abordé, et puis ça correspond vraiment à des avancées contemporaines sur le deep learning, et du coup sur le lien avec la philosophie. Donc on est vraiment au cœur de notre problématique, même si l'auteur ne met pas en jeu la phénoménologie. Mais que sa référence est qu'ancienne, essentiellement. Vous avez vu apparaître à plusieurs reprises donc, le problème que pose l'auteur, qui est essentiellement un problème d'ailleurs plus éthique que politique, en fin de compte. Hein. Le terme qui revient régulièrement, donc, c'est la question de la confiance, hein, à propos d'un processus qui est celui qui a lieu du coup dans la machine elle-même et qui, vous l'avez bien noté, donc nous laisse en position d'extériorité, hein, ne nous permet pas finalement de comprendre ce qui se passe, donc nous laisse dans une sorte de position d'ignorance, hein. Vous avez très bien traduit l'expression latine asilium ignorantia, hein. En fait, littéralement on traduirait c'est un asile d'ignorance, hein, c'est une expression célèbre, hein. Donc on garderait le terme asile pour asilium, qui est le terme latin, pour faire écho aussi au terme donc, qui correspond en fait à l'institution où anciennement, mais encore aujourd'hui, on recueillait les personnes atteintes de troubles mentaux. Donc un asile d'ignorance, c'est-à-dire en réalité un endroit où les personnes ne sont pas en mesure d'utiliser leur raison. Hein, donc c'est en ce sens que c'est pris. C'est une métaphore extrêmement forte, hein, extrêmement... enfin, très très intéressante pour décrire justement la position que nous occupons en tant que usagers de ces machines n'étant pas en position d'expert, en position ni de concepteur ni de programmateur, programmateuse, conceptrice. Donc nous sommes laissés dans une position d'ignorance, d'extériorité, l'auteur décrit très bien le problème donc, que posent ces machines de ce point de vue-là. Problème que j'avais évoqué, si vous avez en tête la conférence que j'ai donnée le 30 novembre dernier, en termes de paradoxe justement, de disjonction entre finalement la connaissance savante et la connaissance populaire, c'est-à-dire grand public, et le fait que nous sommes tous dans cette catégorie grand public en réalité ici, c'est-à-dire que la dimension savante, eh bien, elle est réservée à une toute petite minorité de personnes qui sont capables de comprendre ces algorithmes qui sont extrêmement complexes, hein, et que même des chercheurs, certains chercheurs en intelligence artificielle n'arrivent pas à comprendre. Donc c'est dire qu'il y a vraiment un gros décalage. Et donc vous avez très très bien montré ces enjeux éthiques. Cette notion de confiance, en fait, elle est au centre de travaux aujourd'hui, par ailleurs, qui se déploient, qu'on appelle l'IA de confiance. Donc les questions éthiques sont vraiment au cœur des problématiques contemporaines, la déontologie, comment procéder, alors ça c'est plutôt dans l'usage, par rapport à l'usage qu'ont fait ces machines, donc là ça donne des enjeux politiques, ça c'est plutôt en aval, mais l'article lui se concentre plutôt en amont, hein, sur ce qui se passe à l'intérieur de la machine, donc évidemment la métaphore, l'image aussi de la boîte noire est extrêmement intéressante, puisqu'en fait elle reprend analogiquement des enjeux, donc là je complète un tout petit peu, des enjeux qui sont au cœur de la psychologie cognitive ou des neurosciences, donc des sciences cognitives, puisque dans le cadre des sciences cognitives, on a justement dans le cadre du behaviorisme, notamment en psychologie, mais aussi en neurosciences, On a aussi cette relation finalement de l'humain à ce qui se passe en lui sans qu'il en ait conscience. Hein, puisque en neurosciences, on peut avoir évidemment des courbes qu'on va pouvoir observer sur ordinateur du fonctionnement de notre cerveau, mais en réalité, notre cerveau fonctionne en nous sans nous. C'est-à-dire sans qu'on en ait conscience et sans qu'on puisse de toute façon même y accéder de manière immédiate. On ne peut y accéder que de façon médiate et par ailleurs également avec en ayant besoin d'avoir des connaissances extrêmement avancées finalement du fonctionnement du cerveau pour même être capable de décrypter le sens des courbes qu'on pourrait voir défiler sur un écran. Donc on est aussi laissé dans cette position d'extériorité. Ce que reflète bien la notion de boîte noire. Hein, notre cerveau, c'est une boîte noire et il s'y passe des tas de choses dont on n'a pas conscience et auxquelles on ne peut même pas accéder à moins d'avoir des compétences mathématiques et logiques et informatiques et neuroscientifiques particulièrement développées. Et cette notion de boîte noire, elle renvoie aussi dans le contexte du behaviorisme par ailleurs, donc en psychologie, au fait que la seule chose à laquelle on peut accéder, eh bien, c'est notre comportement, hein, donc « behavior ». C'est donc ce que on voit, les traces, ce qu'on appelle les traces observables de notre esprit. Et notre esprit, eh bien, on ne peut pas y accéder non plus directement. Alors aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. J'y viendrai avec la microphénoménologie parce que justement, l'idée, c'est de pouvoir entrer dans des processus de compréhension de ce qui se passe en nous, au niveau de notre esprit en tout cas, même si ça ne concerne pas le cerveau. Mais enfin, voyez, les analogies sont extrêmement intéressantes. En tout cas, elles portent toutes, et là, en l'occurrence pour cet article en particulier, elles portent sur le problème que pose la non-connaissance du processus en jeu. Hein. Donc l'analogie que prend l'auteur de l'article, en l'occurrence, elle est extrêmement intéressante hein, par rapport à justement cette relation savant populaire ou savant grand public, expert grand public, hein, le décalage, le différentiel, et le fait donc que l'intérêt c'est de se poser la question de justement la confiance qu'on accorde à cette machine. Hein. Donc l'analogie elle vaut jusqu'à un certain point, puisqu'en fait l'exemple de l'expert, que ce soit un médecin, que ce soit un chercheur, ou un philosophe ou une philosophe qui aurait une expertise que ne possède pas la personne qui lui fait confiance, ne l'empêche pas d'être en relation avec cette personne et d'essayer de mieux comprendre. Dans le cas de la machine, la question c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut mieux comprendre une machine en lui posant des questions. Hein. L'analogie, est-ce qu'elle joue jusqu'au bout quoi. Et effectivement, ensuite, le point d'appui que l'auteur prend chez Kant est extrêmement intéressant, puisque justement, ça permet de faire la part des choses entre une théorie de la connaissance qui fonctionne par des règles générales posées a priori, et qui permet d'obtenir une certaine universalité, une nécessité, hein, une objectivité, mais qui ne correspond justement pas à ce qui se passe dans des processus d'apprentissage, qui sont fondés sur l'expérience, et ce qui est justement ce qu'on essaye de faire avec ces machines, ces deep learning machines. Donc on a, et ça c'était très intéressant, hein, que vous, dans la restitution que vous avez faite, justement, de mettre l'accent sur la critique de la faculté de juger, et le fait que c'est par, justement, un apprentissage au cas par cas, hein, comme vous l'avez dit, une familiarisation, eh bien, qu'on peut progressivement entrer dans le processus si entrée il y a et si compréhension il y a. Alors ce qu'on pourrait rajouter, et j'en profite, et j'espère que vous allez vous manifester pour poser des questions, juste ajouter ce point, chez Kant en particulier, hein, quand il y a cette distinction entre le jugement a priori et jugement d'expérience, ou bien jugement analytique, on pourrait dire, et jugement synthétique, hein, pour utiliser les catégories anciennes. Synthétique, ça veut dire qui intègre du nouveau, qui intègre des éléments non connus dans et qui participent de mon expérience et qui me permettent donc d'augmenter ma connaissance. Hein. Alors que le jugement analytique, c'est un jugement formel qui est a priori, donc qui finalement contient en lui-même déjà tous les éléments de connaissance. Donc il n'y a pas de relation à quelque chose qu'on apprendrait et qu'on ne connaîtrait pas déjà d'avance. Hein. Donc cette distinction, elle est déjà présente dans la critique de la raison pure, hein, notamment dans le point qui est intitulé « Analogie de l'expérience ». Où justement Kant fait droit à ce qu'il appelle les jugements d'expérience ou les jugements de perception, qui ne sont pas des jugements analytiques, mais qui sont des jugements synthétiques. Alors, il utilise, on ne va pas venir arriver dans le cœur de la doctrine de Kant, parce que lui parle de jugement synthétique a priori, donc il cherche à faire une synthèse, entre guillemets, entre les jugements analytiques et les jugements synthétiques, qui d'ailleurs est assez problématique en fin de compte, enfin, ça a été pas mal critiqué dans l'exégèse ultérieure, mais nous on va s'en tenir à des jugements purement synthétiques, qui sont des jugements justement qui permettent de ménager une heuristique, hein, c'est-à-dire une capacité d'apprentissage et de relation à de la nouveauté. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, si on va chercher par exemple chez Kant pour compléter non seulement la faculté de juger, la critique de la faculté de juger, mais par exemple l'anthropologie, hein, dans le texte de Kant, l'anthropologie d'un point de vue pragmatique, qui est un texte ultérieur, hein, qui est un texte de la fin du XVIIIe siècle, eh bien on voit apparaître des jugements qui sont ce que Kant appelle les règles de la prudence, ou les jugements de l'habileté, hein, l'habileté et la prudence, qui sont des vertus, donc qui sont des... qui appartiennent au champ de l'éthique, en fin de compte. Et donc la prudence et l'habileté, eh bien, ce sont des attitudes, des modalités de relation à l'action pour le sujet, qui lui permettent précisément de produire une évaluation au cas par cas, en situation. Hein, ce qui est très intéressant, c'est que l'exemple du médecin que vous preniez, de l'expert, eh bien, c'est aussi un exemple que prend Kant, d'une certaine façon, notamment, hein, pour désigner justement un type de connaissance appliquée, un type de connaissance en situation, donc un jugement pratique en fait, mais pratique au sens kantien, c'est-à-dire au sens de pragmatique en réalité. Donc, chez Kant, il y a une distinction entre pratique et pragmatique, puisque pratique, ça correspond dans son vocabulaire à la pratique pure, c'est-à-dire à la morale a priori, à la loi morale a priori. Alors que pragmatique, c'est ça qui nous intéresse, eh bien, c'est un jugement pratique au sens de pragmatique qui vaut en situation, hein, et qui nous permet justement de tenir compte de la situation pour évaluer la connaissance que nous acquérons et que nous allons pouvoir développer. Hein. Donc il y a un ancrage de la pragmatique kantienne dans la théorie d'Aristote, hein, dans l'éthique à Nicomaque. Bon, je ne vais pas m'engager là-dedans maintenant, mais il y a des vertus de la prudence et de l'habileté, notamment de la prudence, de la phronesis. Hein, c'est évidemment quelque chose qui est très présent déjà chez Aristote. Une petite excursus, hein, mais simplement pour vous ouvrir ouvrir le champ que dégage cet article sur des fondamentaux philosophiques qui sont importants pour nous aussi, et qui permettent de comprendre justement. Le rapport, c'est à ça que je voudrais en venir, le rapport finalement des machines, donc de deep learning, à l'expérience, à la connaissance par l'expérience, à la connaissance par la mise en jeu donc d'éléments qui ne sont pas donnés d'avance et qui vont être développés justement durant ce processus, hein, qui reste un processus difficile d'accès, évidemment, donc la question éthique, de ce point de vue-là, de l'opacité, elle reste entière, mais en même temps, on comprend mieux ce qui est en jeu dans ce processus à travers, donc, effectivement, la mise en jeu d'une connaissance par expérience, et donc, du coup, aussi, d'une confrontation possible avec, c'est un grand mot, mais avec ce qui pourrait relever d'une forme de contingence, c'est-à-dire, ça pourrait ne pas être, il n'y a pas de nécessité a priori, finalement, depuis les données ou les règles qui sont proposées, et les données qui sont entrées dans la machine, eh bien, elles vont être transformées et elles vont faire émerger, finalement, d'autres possibilités qui n'étaient pas nécessairement entièrement façonnées d'avance dans l'input. Donc on n'est plus dans un fonctionnement linéaire input-output, même s'il y a bien cette trajectoire. Mais il y a en même temps la prise en considération d'une dimension donc, qui fait en sorte que la machine progressivement eh bien, s'ajuste à de nouvelles possibilités. Donc il y a quelque chose qui est en construction, on pourrait dire, et en développement. Et c'est ça la dimension donc, de relation à l'expérience. Hein. Voilà. Bon, c'était juste pour compléter, et c'est aussi parce que ça va, comment dire, ça ouvre les prémices de ce que justement je voulais vous proposer dans la deuxième heure de cette séance. Donc c'est vraiment vraiment une très bonne entrée en matière, si je puis dire, et mise en place que vous nous avez proposée, Yosra. Alors, est-ce que entre-temps, des questions sont venues à votre esprit ? Est-ce que des éléments d'interrogation, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez partager, des réflexions que vous voudriez partager ? On peut prendre encore quelques minutes. Sans vouloir forcer la main à qui que ce soit, je serais curieuse de savoir ce que... ce que Maëlig peut retirer de cette présentation par rapport à votre sujet, Maëlig, qui concerne le jeu et la perception du jeu et le sujet qui joue, le joueur. Bon, je ne sais pas si je ne veux pas vous imposer une prise de parole, Maëlig, mais en tout cas, je pense que ça doit résonner de manière extrêmement intéressante par rapport à votre mémoire. Voilà, ça a été pour moi aussi intéressant de faire le lien. En tout cas, ça m'a fait penser à votre travail. Je me suis dit que vous alliez peut-être pouvoir en tirer quelque chose d'intéressant. D'autres questions, des questions, des remarques, David, éventuellement. D'accord, bien sûr. Oui, non, mais je comprends. Ce que je ferai, c'est que je vous enverrai, si Yosra est d'accord, je vous enverrai son PowerPoint également. Si vous êtes d'accord, Yosra, de façon à ce que vous puissiez le relire tranquillement. Et peut-être, effectivement, c'était difficile peut-être de tout noter, mais bon, comme de toute manière, c'est déjà très bien, très bien. Donc, vous me dites soit je le fais, soit vous le faites vous, sur... c'est comme vous voulez. Hein, mais je peux comme je l'ai... Je l'ai sur mon ordinateur aussi. Je peux le faire. Est-ce que c'est comparable au jeu de langage implicite chez Wittgenstein ? Oui, merci Yosra de le faire tout de suite, du coup. Je veux bien. C'est un peu large comme question, Pierre. C'est un peu large, en fait. Hein, comment dire ? Le jeu de langage, c'est vrai que... il y a la même dimension, je dirais, de fonctionnement. Hein, c'est-à-dire que ça fonctionne et ça se fait de manière pratique. Dans la pratique, en fait, il y a un certain nombre de mises en place au niveau de notre manière de parler, voilà, des différentes composantes que nous mettons en place et que nous utilisons dans des interactions. Et ça, c'est le cadre même de la pratique, en fait, qui est en jeu. Dans la pratique, beaucoup de nos interactions se déploient sans que nous en ayons conscience. Donc, d'une certaine façon, c'est pas le jeu de langage en particulier qui pourrait être comparé, même si ça peut être un bon exemple. Hein, c'est peut-être l'association avec le jeu qui vous a fait aussi mettre ça en relation. Ça concerne la pratique en tant que telle. Enfin, la pratique en tant que telle, c'est un champ dans lequel on se produisent toutes sortes d'interactions. Et toutes mes interactions, elles s'opèrent, hein, elles s'effectuent sans que je sois sans cesse en position réflexive par rapport à ce que je fais. C'est la caractéristique même de la pratique. C'est pas un défaut, c'est pas un problème en soi, c'est la réalité même de notre manière d'être, de la pratique même de notre agir. Donc de ce point de vue-là, on pourrait mettre ça plutôt en relation avec ce qui se passe à ce niveau-là. Après, la grande différence, c'est que, et ça vaut aussi pour le jeu de langage, le jeu de langage qu'on opère tacitement, on peut l'analyser. C'est-à-dire, on peut remonter, on peut avoir une position réflexive par rapport à cela, une position d'analyse, sans être nécessairement un linguiste ou un compétent en sémantique formelle, etc. À minima, on peut comprendre ce qui est en jeu si on y revient. Ou quelqu'un peut nous alerter sur... vous avez utilisé telle manière de vous exprimer, vous avez fait interagir un certain nombre d'expressions ensemble, ça correspond à votre mode d'expression, et on peut l'analyser. De la même manière, dans la pratique, dans des interactions qu'on a et des choses qu'on fait spontanément, si on s'arrête 2 minutes et qu'on revient sur ce qu'on a fait, ou si quelqu'un s'adresse à nous et nous interroge sur ce qu'on a fait, on a une capacité réflexive qui nous permet de revenir sur ce qu'on a fait et de comprendre ce qui a été en jeu. Alors, pas forcément à 100%, hein, évidemment, mais en tout cas de manière assez suffisante pour que, pour être en mesure de se donner des outils de compréhension. Donc c'est là qu'il y a une très grosse différence, en fin de compte, par rapport à ce qui se passe dans les processus de DLM, où là, vraiment, l'inaccessibilité est beaucoup plus ample et compliquée à décrypter à ce niveau-là. Donc il y a vraiment une différence de niveau, en fait. L'être humain a la capacité unique de réfléchir et d'analyser et de comprendre. Donc vous voyez, là, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que le décalage, il n'opère pas, enfin, en fait. Alors que pour ce qui est de deep learning machines, c'est le problème de fond. C'est un problème de fond sur lequel on va revenir, parce qu'en fait, l'idée, ce que je voudrais essayer de vous montrer, et c'est pour l'instant une piste de recherche, parce qu'en réalité, il n'y a rien sur ce terrain actuellement, c'est d'essayer de vous montrer comment la microphénoménologie peut justement jouer un rôle dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre de cette opacité du processus algorithmique en jeu dans les DLM. Alors, analogiquement, pour commencer, co-générativement, c'est-à-dire en intégrant davantage finalement les ressources en jeu dans un processus, un micro-processus beaucoup plus fin que la réflexion, parce que justement ça permet d'aller à un niveau de micro-description beaucoup plus fine, et ça demande une expertise là aussi, mais c'est accessible à tous. Donc c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer. Comment ça peut-être jouer un rôle, contribuer à interroger davantage et à entrer davantage dans la compréhension des processus qui restent des boîtes noires et qui posent un problème d'opacité, effectivement, et de défiance dans le cadre des DLM. Mais c'est vraiment des questions intéressantes, effectivement. David, vous aviez commencé à écrire quelque chose, mais peut-être pour plus tard, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup, Yosra, pour cette présentation très très stimulante. Et donc, si vous voulez, on va prendre 5 minutes de pause. J'essaye juste d'attendre que David... Voilà, bon, plus tard, ok. Bon, on verra, on aura peut-être... On va prendre un temps d'échange après ma présentation, dans la deuxième partie du temps. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause de 5 minutes. On se retrouve donc à un peu avant 45 pour le deuxième temps du séminaire.